We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur We do biz pour les rendez-vous du recrutement. Ici Sandrine Chauvin, responsable éditoriale de la rubrique carrière du site capital.fr. Alors, cette semaine, nous allons vous aider à recruter des experts, et ceci à moindre coût, en faisant appel à des freelances. Avec nous, François Corignan.
Bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à tous.
François, vous êtes directeur commercial chez GFT Resourcing France. Votre métier consiste justement à placer des freelances, notamment dans le secteur de l'informatique et des télécoms. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, tout à fait. Je suis en effet responsable commercial des opérations françaises du groupe GFT Resourcing, qui est un groupe international. En ce qui concerne la France, nous comptons aujourd'hui 280 intervenants freelance en mission, qui sont des missions, comme vous l'avez dit, exclusivement dans les domaines d'informatique et télécom.
Donc, quel est l'intérêt d'une entreprise de recourir à un freelance plutôt que d'embaucher quelqu'un en CDI ou en CDD, par exemple ?
Alors, les intérêts sont multiples. Tout d'abord, en ce qui concerne, si j'ai compris, les PME en particulier, le premier intérêt est de pouvoir capitaliser sur une personne aux compétences multiples. La PME est souvent, les entrepreneurs ont souvent besoin de personnes qui vont être capables de faire valoir différentes compétences pour leur confier des projets dans leur globalité. Le freelance, de par son profil multicompétence, va justement être capable de mener à bien ces projets complexes.
Vous avez un exemple de projet en tête, hein ?
Oui, tout à fait. Là, pas plus tard qu'il y a deux semaines, une PME du domaine de agroalimentaire a eu besoin d'un intervenant qui sache à la fois comprendre le métier, être capable de dialoguer avec les utilisateurs, en l'occurrence une société d'une vingtaine de personnes, de dialoguer avec les personnes de ses collaborateurs pour comprendre quels étaient leurs besoins et également être en capacité, de par sa compétence informatique, de traduire ce besoin en cahier des charges de manière à implémenter le bon logiciel. Le bon progiciel pour le projet.
Donc pour la PME en question, ça lui a permis quoi ? D'éviter de recruter un DSI qui lui coûterait les yeux de la tête ?
Tout à fait. Ça lui a permis, je pense que de toute façon, l'option de recruter dans ce cadre n'en était pas réellement une. L'alternative aurait été de faire appel à une société de service, grosse société de service du marché, et qui aurait apporté le même service, mais vraisemblablement à un coût bien supérieur. Les frais, les marges et les frais fixes de ces structures n'ont rien à voir avec les attentes des freelances.
Et là, sur un freelance de ce type-là, donc des experts, combien ça peut coûter ? Vous avez des fourchettes de prix ?
Tout à fait. Alors, en l'occurrence, il s'avère que des études récentes ont montré que travailler avec un freelance via son agence de placement versus travailler avec une grosse société de service permet aux clients, qu'ils soient grosses sociétés ou PME, évidemment, d'économiser 30 à 40% du tarif jour.
D'accord. Et ça, c'est des missions sur une durée moyenne de combien de temps ?
Alors là, je pourrais parler que pour le groupe GFT Resourcing aujourd'hui. Notre durée moyenne de mission, renouvellement inclus, est de 9 mois et demi. Et cela va de missions d'expertise très pointues d'un mois vers des missions de plus de 18 mois, avec un maximum de 24 mois.
Et comment sont payés ces freelances ? Est-ce que c'est sur facture, en fiche de paye ou enfin comment ça se passe ?
Alors, on va contractualiser avec eux sur donc c'est un contrat de service qui va préciser soit un montant en tarif journalier qui va définir la facturation de fin de mois prorata du nombre de jours travaillés, ou bien sur ce qu'on appelle un livrable, c'est-à-dire un résultat que le freelance devra donner après. Fonction de critères de qualité, de délai et de tarifs qui auront été précédemment définis. Et dans ce cas-là, il facture un montant au forfait à échéance.
Donc ça veut dire que pour le patron de PME, lui, il aura simplement une facture à payer à la fin du mois ou à la fin de la mission.
Tout à fait.
Et c'est vous qui vous chargez des formalités avec le freelance.
Absolument. C'est-à-dire que le contrat et les engagements, la responsabilité est prise par, en l'occurrence, l'agence GFT auprès de la PME, auprès de son client. Et donc, à ce titre, nous facturerons au prorata du nombre de jours, la plupart du cas, au prorata du nombre de jours travaillés dans le mois.
Et quelle est la différence avec le portage salarial dont on entend aussi beaucoup parler ?
Alors, la différence fondamentalement n'est pas énorme. Le portage salarial, en réalité, il s'adresse où la profession libérale s'adresse en réalité à des individus qui ont choisi l'indépendance, choisi d'assurer eux-mêmes leur intercontrat et de gérer eux-mêmes leur carrière. Le portage salarial va plutôt s'adapter à une personne qui soit se lance dans le freelancing et ne sait pas encore ce que demain se sera fait, ou souhaite s'exonérer des démarches administratives et des complexités parfois, même si la loi s'assouplit et les démarches sont de plus en plus simples, mais ça reste pour un salarié moyen plus compliqué de se déclarer encore profession libérale. Donc il préférera le statut de portage.
Donc ça veut dire finalement l'intérêt n'est pas tant pour le client PME que pour le prestataire, c'est-à-dire le freelance qui choisit soit le portage, soit d'être en libéral.
Absolument, absolument. Et la facturation n'a strictement aucune incidence sur le statut de l'individu.
Et quelle différence avec l'intérim ?
Alors, l'intérim est une prestation ressources humaines, donc déjà qui ne rentre pas pour le client dans le même champ de facturation. Et l'intérim va s'adresser, va régler ses prestataires, va les rémunérer sur une fiche de paye en fin de mois, la facturation se faisant le plus souvent mensuellement. Dans le cadre d'une prestation intellectuelle, on rentre donc dans le cadre du contrat de service, et la facturation 1 se fait en honoraire hors taxe et le plus souvent au prorata du nombre de jours facturés dans le mois, au nombre de jours travaillés.
A priori, c'est donc moins compliqué pour le patron de PME qui n'a pas à gérer un salarié finalement, enfin en tout cas une masse salariale, c'est plutôt une prestation de service.
Absolument.
D'accord. Et ensuite, par rapport à la sécurité, comment être sûr que ces freelances-là vont respecter la confidentialité du projet, vont ne pas ébruiter tout ce qui se passe dans l'entreprise ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le contrat qui est prévu sur ce sujet ?
Bien entendu, nos contrats sont blindés et disposent de cette clause de non-confidentialité, de non-divulgation d'informations. Voilà. Donc contractuellement, vous avez la réponse. Mais par-delà cet élément, il faut bien comprendre qu'un freelance est quelqu'un dont la réputation, dont le bouche-à-oreille est extrêmement important, puisque à la fin de la journée, c'est ce qui assure la pérennité de son statut, la pérennité de ses missions, et encore moins que n'importe quel autre intervenant de société de service, voire même de salarié. Il ne peut se permettre de donner une mauvaise image, et donc, dans ce cas précis, de divulguer une information dont il n'aurait pas eu le droit.
Et moi, en tant que client et patron de PME, comment je peux être sûr qu'il ne travaille pas chez un concurrent, par exemple ?
Alors, je pense qu'il faut le demander, le gérer avec votre agence de placement. D'accord ? Il est clair qu'il n'y a pas de clause de non-concurrence fatalement, enfin par défaut, dans tous nos contrats. Mais très clairement, lorsque le client nous le demande, lorsque le client le souhaite, il y a des dispositions contractuelles qui sont de nature à empêcher le candidat de travailler chez des clients de la même industrie pour divulguer une information ou réutiliser une information qu'il ne devrait pas avoir.
Si j'ai bien compris, là, on se situe quand même sur des experts. Comment est-ce que je peux vérifier ses compétences, être sûr qu'il va pouvoir assurer le projet, puisque c'est quand même des projets assez pointus ?
Bien entendu. Donc là encore, c'est un point important, merci de le soulever. Le freelance, aujourd'hui, en France, doit disposer de références positives, nombreuses, que l'agence, que l'intermédiaire ou que lui-même doit être capable de vous communiquer. Un freelance, aujourd'hui, choisit ses missions, il choisit lui-même ses missions, et de ce fait, a la liberté d'accepter la mission qui va l'intéresser particulièrement.
Donc, est-ce que, par exemple, on peut appeler des clients chez qui il a déjà travaillé ou pour vérifier qu'il a vraiment les compétences, la personnalité qui convient pour le projet ?
Absolument. C'est monnaie courante. C'est dans les pratiques usuelles.
Ça, c'est vous qui le faites pour sélectionner les candidats avec qui vous travaillez ?
Tout à fait.
Comment se construit la relation avec un indépendant qui, par définition, est là pour une courte durée ?
Entre l'indépendant et le patron de PME, ou patron de TPE en l'occurrence, bah très bien, justement, puisqu'en fait, ils discutent d'entrepreneur à entrepreneur en réalité, et les patrons de PME ont besoin d'avoir en face d'eux la personne qui va, un, être responsable, qui va prendre ses responsabilités, qui aura l'expression les mains dans le cambouis au quotidien, et qui sera capable de leur rendre des comptes.
C'est-à-dire qu'ils vont, être capables de se comprendre, être sur le même mode de fonctionnement?
Absolument. Ils discuteront d'entrepreneur à entrepreneur.
En même temps, est-ce que ça peut ne pas se tamponner, c'est-à-dire qu'ils aient des intérêts opposés?
Non, puisque en réalité, on reste quand même dans un rôle de client-fournisseur et cette relation prévaut. Le client décide, le client a des attentes, le fournisseur, en l'occurrence le freelance, se doit d'y répondre.
D'accord, donc ils font un cahier des charges au début avec les réponses qu'ils doivent apporter et la mission qu'ils doivent satisfaire. Et si la mission achoppe, si ça se passe mal avec le freelance, comment ça se passe?
Alors contractuellement, il y a toujours des délais de sortie, des délais de préavis qui sont dans le cadre de missions courtes d'une semaine. Ça peut aller jusqu'à 4 semaines pour des missions plus pérennes. Mais dans tous les cas, le client final, si le pire devait arriver au pire, n'est pas pieds et poings liés jusqu'à la fin du contrat.
Vous vous engagez par exemple à changer le prestataire, changer le freelance?
Absolument.
Pour en trouver un plus adapté à la personnalité ou au mode de fonctionnement de l'entreprise ou au projet?
Absolument.
D'accord. Au rendez-vous du recrutement, on a aussi des habitudes qui consistent en l'occurrence à citer un petit dicton ou une phrase qui résumerait bien votre philosophie ou votre métier. Donc est-ce que vous pouvez nous en faire part?
Alors absolument. En ce qui concerne mon métier et à appliquer au TPE et au PME, je considère qu'une PME ne doit pas aujourd'hui s'interdire d'accéder aux dernières technologies et de s'offrir le retour d'expérience des grands groupes et travailler avec des freelances et leurs agences lui le permettra.
Finalement, c'est s'offrir le luxe d'avoir l'expertise des grandes.
Absolument.
François, merci pour votre avis d'expert. Et
merci,
chers
Sandrine.
Auditeurs, à la semaine prochaine pour nos prochains rendez-vous du recrutement sur WeDoBiz, tous les lundis à la même heure.